Bonjour à tous. Je vous lis les quelques versets qui sont aussi sur le quad 9. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il surgira sur la poussière. Et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. C'est moi qui le contemplerai. Oui, moi. Mes yeux le verront, lui. Et il ne sera pas étranger. Mon cœur en brûle au fond de moi. Si nous ne connaissons pas ce passage, ou si nous ne le connaissions pas, on pourrait penser qu'il est dans le Nouveau Testament, tellement il exprime la foi, il exprime en quelque sorte notre foi, ma foi, mon espérance. Mais comme le quad neuf le dit, et comme vous le savez, ce sont les paroles de Job. Et il les a dit dans le chapitre 19, en plein milieu du livre. Et donc, il nous faut aussi lire un peu le contexte et dire quelques mots du contexte, parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment Job il a pu dire ça dans la situation dans laquelle il était. Voilà ce que je vous propose de faire ce matin. Et je suis vraiment reconnaissant pour tous les chants qu'on a chantés, les louanges qu'on a fait monter, et on veut rester là-dedans, même si Job, vous avez peut-être déjà réagi, mais pourquoi il va parler de Job ce matin? Je veux dire, c'est pas quelque chose, que un sujet qui nous attire comme ça. Mais c'est quelque chose d'important. Alors je vais de suite lire les versets qui précèdent, Ce passage, les versets, ça c'était les versets 25 à 27 de Job 19, et maintenant je vais lire les versets 13 à 24. Dieu a éloigné mes frères de moi. Ceux qui me connaissent se veulent étrangers. Mes proches ont disparu, mes familiers m'ont oublié. Les hôtes de ma maison et mes servantes me traitent en étranger. Je suis devenu un intrus à leurs yeux. J'ai appelé mon serviteur, il ne répond pas, de ma bouche je l'implore. Mon haleine répugne ma femme, et je dégoûte les fils de mes entrailles. Même des gamins me méprisent, quand je me lève, ils jasent sur moi. Tous mes intimes m'ont en horreur, même ceux que j'aime se sont tournés contre moi. Mes os collent à ma peau et à ma chair, et je m'en suis tiré avec la peau de mes dents. Pitié pour moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a touché. Pourquoi me pourchassez-vous comme Dieu le fait? Seriez-vous insatiable de ma chair? Ah, si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si on les gravait sur une inscription avec un burin de fer et du plomb, si pour toujours dans le roc, elle restait incisée. Et c'est ensuite que vient notre passage. Je sais bien que moi, mon Rédempteur, est vivant. Donc il nous faut un mot de contexte. Les premiers chapitres du livre de Job nous présentent un homme de Dieu. Job est plein de foi, intègre dans ses voies et un pilier dans sa communauté. Et puis soudainement et inexplicablement, tout lui est enlevé. Job perd sa famille, ses enfants, ses amis, ses richesses, sa fortune, sa santé, son statut dans la communauté. Bref, il est plongé dans les ténèbres. Ça, c'est le début du livre. Et maintenant, dans la partie centrale dont est extrait notre passage, il y a ces longs discours de Job où nous l'entendons se lamenter, se plaindre, mais poser des questions profondes et sincères que nous avons également. Pourquoi? Pourquoi cela m'est arrivé? Quand est-ce que ça s'arrêtera? Vais-je survivre? Et comment? Y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Ou alors, y a-t-il quelque chose qui cloche chez Dieu? Voilà donc ce qui occupe une grande partie du livre. Mais il y a deux passages, dont celui que nous venons de lire, l'autre est au chapitre 14, où Job, dans sa lutte, atteint des moments forts de foi et de clairvoyance remarquables, vraiment extraordinaires. C'est le passage qui est sur le quad 9. Et dans ce que nous venons de lire là tout de suite, on voit que ce cri de cœur de Job, c'est d'être entendu. Il veut que quelqu'un l'écoute. Il sait ce qu'il désire ardemment, que quelqu'un entende sa supplication. Le verset 23 dit, c'est la fin du passage, « Oh, que mes paroles soient consignées, qu'elles soient écrites sur un rouleau, qu'elles soient gravées ou inscrites dans la pierre pour toujours. » En substance, il dit, « Si seulement quelqu'un voulait bien écouter ce que j'ai vécu, ce que je vis. » Et avant de trouver celui qui va l'écouter, il faut nous pencher sur ceux qui ne l'écoutent pas. Et ce que nous avons lu ici, c'est toutes les personnes qui ne l'écoutent pas ou plus. Dans ces versets, Job décrit longuement tous ceux qui l'ont abandonné, ceux qui l'ont laissé tomber, au moment où il avait le plus besoin d'aide, où il avait besoin de réconfort dans ses souffrances. Et quelle que soit l'affliction que Dieu a infligée à Job, elle a entraîné la perte totale du soutien de la communauté. Je reprends rapidement ces différentes personnes. Ou plutôt, on peut déjà se demander pourquoi ils sont tous partis. Ben, une première raison, c'est que tout le monde croit que fondamentalement, Dieu en veut à Job et qu'il l'a amené en jugement. Parce que toutes ces choses sont arrivées ensemble. On peut dire que c'est le hasard. Mais les gens, pour eux, c'était que le jugement de Dieu est tombé sur Job, et du coup, il faut s'en éloigner. Mais aussi, il y a une raison encore plus terre-à-terre, c'est qu'en fait, à ce stade-là, Job était devenu physiquement repoussant à cause de ses ulcères, à cause de toutes ses plaies, à cause de la maladie dont il souffrait. Et la première chose qui est dite, Dieu a éloigné mes frères de moi. Et dans la société patriarcale de cette époque, les liens entre les membres de la famille, d'une même famille, étaient très étroits, et en particulier entre frères. Il a éloigné mes frères de moi, mes connaissances se sont complètement détournées de moi, mes proches sont partis. Et ensuite, il y a aussi les serviteurs. À cette époque, les serviteurs, c'était des personnes qui étaient formées pour prévenir, pour détecter le moindre désir du maître et de répondre avant même qu'il demande. Et là, Job dit, mes servantes me considèrent comme un étranger, ils me regardent comme un étranger, j'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Et sans doute, les ulcères sur son corps et sa maladie ont aussi causé une odeur nauséabonde et répugnante, puisqu'au verset 17, il dit, mon souffle est répugnant à ma femme, et même les enfants. Alors qu'à l'époque, les enfants devaient absolument respecter les aînés et les honorer, là il dit, même les petits garçons me méprisent, quand j'apparais, ils se moquent de moi. Et sa souffrance physique et son affliction est vraiment immense. Le dernière parole est très visuelle. Il ne me reste plus que la peau des dents. Il ne reste en fait plus rien, plus d'énergie, plus de force. Physiquement, je ne suis plus rien. Et son cri intérieur, c'est si seulement quelqu'un pouvait m'entendre. Donc voilà son entourage. On remonte encore, c'est comme de l'Apocalypse à la Genèse, là on remonte de la fin du chapitre vers le début. Dans les versets précédents encore, les versets 7 à 12, cette fois-ci, ce que Job pense, parce que moi je ne pense pas que ce soit le cas, c'est que Dieu lui barre la route. Dans la partie versets 7 à 12, il va se plaindre que Dieu l'a abandonné ou qu'il s'est ligué contre lui. Écoutons ce qu'il dit. Verset 8. « Dieu me barre la route, je ne peux pas passer. Il me fait chercher mon chemin dans l'obscurité. Il m'a dépouillé de l'honneur qui était à moi, de ma tête. Il a ôté la couronne de mon prestige. Il a tout démoli autour de moi et je m'effondre. Il a arraché mon espérance comme on arrache un arbre. Enflammé de colère contre moi, il m'a considéré comme l'un de ses ennemis. Job cherche quelqu'un qui l'écoute, et dans son raisonnement, ou par ce qu'il voit, il arrive à cette conclusion, Dieu a dû l'abandonner, Dieu le bloque, il y a plus d'espoir. Et si on remonte encore au début du chapitre, versets 2 à 7, ce sont ses amis. Ses trois amis, d'accord ? C'est avec eux qu'il lui parle et répond, etc. Et il dira dans ces versets que ses amis le tourmentent et l'insultent, puisqu'il l'accuse injustement. Si tu es dans cette situation, c'est que tu l'as mérité, tu as fait quelque chose et tu devrais le confesser. Et pour lui, il l'insulte, le tourmente, en fait, il l'abandonne aussi. Et au verset 6, en réponse à ses amis, il dit aussi, c'est Dieu qui m'a fait du tort. Aussi à travers ses amis qu'il accuse mal. Et c'est une expression juridique qui signifie qu'il a été condamné sans audience, sans fondement, qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable. Sa cause a été abandonnée. Donc selon Job, personne, pas même Dieu, ou surtout Dieu, n'a entendu sa supplication. Et si on se dit, qu'est-ce qui rend cette souffrance si insupportable, si difficile? Et on va le dire tout simplement pour nous aussi, pour nous tous, qu'est-ce qui rend la souffrance si difficile pour quiconque? C'est pas seulement tout ce que nous venons de dire, la souffrance physique, les pertes, ce qui rend la chose insupportable, c'est ce sentiment d'être complètement seul, d'être abandonné des hommes, abandonné de Dieu. Je pense que ça, c'est la chose la plus terrible. Je ne l'ai pas moi-même expérimenté, j'ai eu des témoignages. C'est de se sentir complètement seul et que personne ne comprend. Voilà le contexte. Et je m'arrête pour le contexte. D'accord. Et comment Job, en introduisant, en étant dans le fond du canyon le plus profond, comment est-ce qu'il grimpe sur la montagne pour prendre le dessus et crier sa foi? Mais c'est ce qu'il fait ici. Avec tout ce que je viens d'écrire, nous voyons que malgré l'obscurité dans laquelle il se trouve, Job remonte et il comprend qu'il n'est pas seul. Et là, il rencontre quelqu'un qui va l'écouter. Est-ce qu'il sait que Dieu ne l'a pas abandonné? Est-ce qu'il sait que la justice va venir? En tout cas, relisons notre texte. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et quand il parle là, c'est comme un autre homme. Il parle par la foi. C'est tout à fait autre. Alors, c'est, avant de dire que c'est qui ce Rédempteur, regardons quand même ce que signifie ce terme dans la Bible, parce que c'est pas peu de choses, c'est le mot, je ne parle pas hébreu, mais il est translittéré Gaal. Ok, Goël. Il est translittéré Goël. Je vais essayer de garder ça. Voilà. Et ça veut dire, c'est un parent proche rédempteur. Et le mot « rédempteur » dans l'Ancien Testament signifie donc « parent rédempteur ». Et on le voit dans les livres de la loi, je pense Lévitique, etc. En Israël, il y avait toujours un membre de la famille, un parent proche, qui était chargé de protéger et de garantir les droits de ses proches, de sa famille. Il y avait donc un membre du clan qui préservait l'intégrité de la famille et venait en aide aux proches en difficulté. Et donc, si un frère était fait prisonnier ou vendu comme esclave, le parent le plus proche le rachetait en versant une somme d'argent. Il le rachetait et l'aidait à retrouver sa place au sein de sa famille. Donc voilà ce mot, ce rédempteur. Ou encore, lorsqu'un membre du clan était tué, un parent allait chercher justice contre le coupable. Si par exemple une dette était si importante qu'un membre de la famille avait dû vendre ses biens, le rédempteur allait rembourser la dette de ce parent. Et si un homme marié mourait, le parent rédempteur prenait soin de sa veuve et de ses enfants et les accueillait chez lui. Et ce parent rédempteur, c'était toujours le parent le plus proche qui pouvait jouer ce rôle, donc qui s'efforçait de garantir la position de la personne dans la famille. Donc c'est quelqu'un qui vous défendait, quelqu'un qui vous représentait, quelqu'un qui vous protégeait. Voilà. Et donc, comme illustration qu'on a tous, je pense, en tête, après ce que vous avez entendu, le Goël est très bien illustré dans le livre de Ruth, où Boaz, la personne de Boaz, qui est en fait, on apprend au fur et à mesure, c'est un parent proche de Naomi. Et il y avait encore un parent plus proche, ça on l'apprend après, mais c'est Boaz qui a joué ce rôle de parent rédempteur, de Goël. D'accord ? Et je vais vous lire juste un extrait, une expression dans Ruth 3, verset 12. C'est Boaz qui s'adresse à Ruth pour lui dire qu'il va jouer ce rôle. Et il va lui dire, et je vous lis dans trois versions, la Nouvelle Bible Seconde dit, « Il est vrai que je suis rédempteur. » La parole de vie, « Oui, c'est vrai, je dois prendre soin de toi. » Donc c'est le rôle du rédempteur. Et enfin, la Nouvelle Français Courant nous donne toute la théologie. Il est exact que j'ai à ton égard la responsabilité du parent proche qui a le droit de rachat. D'accord ? C'est trois fois pour dire la même chose. Et c'est pour bien comprendre qui est cette personne. Donc quand Job crie, c'est pour demander, il a trouvé ce rédempteur. Mais donc là, on parle de la famille. Mais ce même mot de Goël, il n'est pas seulement appliqué dans ce sens-là, mais il est utilisé tout au long de l'Ancien Testament pour décrire Dieu, Yahweh, l'Éternel, parce que c'est Dieu qui était le Goël, qui était le rédempteur d'Israël lorsqu'il a fait sortir d'Égypte. C'est Dieu qui était le rédempteur d'Israël lorsqu'il a ramené son peuple de la captivité babylonienne. Donc ce terme s'applique aussi à Dieu. Dieu est aussi vu, en quelque sorte, comme le parent rédempteur, mais là, carrément de la nation. Voilà, on revient à Job. Donc, il sait qu'il existe un parent rédempteur, un Goël, un membre de la famille qui, d'une manière ou d'une autre, va le sauver et le protéger. Et on se souvient que juste avant, Job pense que Dieu est contre lui, et il lui demande, ce que Job demande, c'est de lui rendre justice. Et donc on a là une contradiction. Job a besoin de quelqu'un pour le racheter et le défendre, et c'est Dieu qui va le racheter et le défendre contre Dieu lui-même. D'accord ? En fait, donc c'est ça. Job, il a besoin que Dieu le défende contre Dieu. Et le verset 25 dit... À la fin, le Rédempteur se tiendra sur la terre. Il surgira de la poussière. Un autre texte dit « il interviendra ». Et là aussi, c'est un terme juridique. On a donc quelqu'un qui vient prendre la défense de Job. Quelqu'un qui sera son avocat, quelqu'un qui plaidera en faveur de ses droits. C'est pourquoi tout à l'heure, en lisant le texte d'abord, j'ai dit que ce texte pourrait être dans le Nouveau Testament, parce que Qui est ce rédempteur, ce défenseur? C'est Jésus, d'accord? C'est Jésus qui est notre avocat devant le Père. Il est Dieu fait homme. Il est le parent rédempteur qui se tient debout pour garantir nos droits, qui se tient debout en notre nom et qui est puni à la croix en notre nom. Et la Bible appelle Jésus un frère aîné. C'est Romains 8, 29. Un parent. Dans Jean 14, verset 18, quand Jésus parle à ses disciples pour dire qu'il va bientôt partir et que le Saint-Esprit va venir, il leur dira ceci: « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens à vous. » Notre frère aîné est allé se tenir devant Dieu pour subir la justice de Dieu contre le péché, afin de nous protéger, afin que la justice de Dieu ne s'exerce pas contre nous. Jésus a été abandonné dans sa souffrance ultime, afin que nous ne soyons jamais abandonnés dans notre souffrance, que ce soit dans les moments sombres ou dans les moments d'obscurité totale. Il ne nous abandonne jamais. Nous n'allons jamais être séparés de Dieu. Et c'est exactement cela que Job avait besoin d'entendre. C'est ce que son cœur avait désespérément besoin d'entendre. Celui qui ferait plus que seulement écouter sa supplication, mais celui qui se tiendrait à sa place, qui plaiderait sa cause jusqu'à la tombe, afin que lorsque nous souffrons, nous ne souffrions jamais seuls. Et c'est pourquoi il dit « C'est moi qui le contemplerai. Oui, moi, mes yeux le verront, lui, et il ne sera pas étranger. Mon cœur en brûle au fond de moi. » Et il y a plus. Dans le verset précédent, il dit « Et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. » En substance, il dit « Même si cela me tue, la justification ultime est qu'un jour je serai restauré. Je me relèverai, je serai renouvelé et je ressusciterai. » Moi, je trouve vraiment extraordinaire que Job ait compris cela. Et de manière si claire, et aussi qu'il a pu se l'approprier, recevoir cette assurance qu'il exprime ainsi. En effet, pensons un instant, Job n'avait pas le Nouveau Testament, comme nous. Il n'avait même pas l'Ancien Testament. Parce que pour nous, la Bible, c'est vraiment notre ressource fondamentale pour connaître Dieu, pour découvrir le message du salut, pour y répondre et pour vivre la vie chrétienne. Mais Job ne l'avait pas. Et dans sa grande épreuve et ses souffrances, il n'avait pas non plus le soutien de son entourage, qui pensait que Dieu l'avait abandonné. Et pourtant, du fond de l'abîme où il était au début du chapitre, il s'est élevé, il a vu assez de lumière dans ce qu'il connaissait de Dieu pour monter sur la montagne et crier sa foi, qui nous donne ce texte à lequel nous pouvons vraiment nous associer. Il a l'assurance que son Rédempteur est vivant, il a la confiance qu'un jour, il va ressusciter des morts. Et si on finit de la lecture de Job, on voit que, à la fin, après toute cette souffrance, Dieu répond à Job. Et il va utiliser, Dieu est appelé à partir de là Yahweh, alors que c'était Elohim tout au départ. Maintenant, Dieu établit un dialogue avec Job. Dieu parle, Job répond. Il le rassure, Dieu le rassure, il ne l'a pas abandonné. Et il le restaure entièrement dans sa famille, dans sa communauté, dans ses biens. Et je trouve que cette restauration de Job me fait déjà penser à la résurrection finale, même si c'est juste à ce moment-là. C'est ce qu'on peut entrevoir. Et Job ne pose plus la question du pourquoi. D'ailleurs, Dieu ne développe pas une réponse au pourquoi non plus. Mais Job sort de cette épreuve transformé, Mes yeux avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Il sort de cette épreuve victorieux, grandi, plus vrai. Dieu lui a parlé, Dieu lui parle, il s'est révélé à lui, c'est formidable. Deux points pour nous, en conclusion, et nous l'avons chanté dans nos chants plusieurs fois déjà, c'est que Dieu ne nous laissera jamais seuls. Si Jésus est devenu notre frère aîné, en devenant notre parent rédempteur, en donnant sa vie pour nous, alors nous pouvons avoir l'assurance que jamais il ne nous abandonnera. Bien au contraire, il est toujours avec nous. C'est écrit sur toutes les pages de la Bible, ou presque. Je vais en lire une, Ésaïe 41. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est pourquoi, dans nos épreuves de la vie, veillons à ne pas nous couper de Dieu en pensant qu'il nous a abandonnés, qu'il ne s'intéresse pas à nous, en pensant que nous avons péché et ne méritons plus de nous approcher de lui. N'écoutons pas notre propre cœur et surtout n'écoutons pas l'ennemi de nos âmes qui veut nous cribler, mais écoutons ce qu'il est écrit sur chaque page de la Bible. Ésaïe 43, « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Toutes ces paroles sont là pour que, lorsque l'épreuve vient, on puisse les rappeler, et les repasser et nous y accrocher. C'est ce que Job a fait pendant ce moment. La deuxième chose, deuxième point que je vois qui est très fort ici, c'est l'espérance qui nous est donnée par la résurrection de Jésus. En Jean 14, versets 18 à 19, on a déjà commencé à lire le premier, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous, encore un peu, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi, je vis, et que vous aussi, vous vivrez. » Parce que Jésus vit aujourd'hui, parce que mon Rédempteur est vivant, je sais que moi aussi, je vis et je vivrai. Et ces derniers mois, le Seigneur m'a souligné comme jamais l'importance centrale de la résurrection de Jésus pour vivre la vie chrétienne, pour faire face aux défis de la vie. C'est bien par la mort de Jésus à la croix, à ma place, que j'ai le pardon de mes péchés. Et c'est par sa résurrection, le troisième jour, que je sais que tout est vrai, que l'Évangile est vrai. La résurrection de Jésus, c'est la preuve que l'Évangile est vrai. Christ a vaincu la mort, et ainsi il me donne l'espérance de la résurrection au dernier jour. 1 Pierre 1, versets 3 et 21 nous disent « Dans sa grande bonté, Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Ainsi, vous pouvez placer votre foi et votre espérance en Dieu. » Et la résurrection, là, on parle par rapport aux épreuves, à la souffrance, mais elle est importante dans tous les aspects de la vie, la résurrection de Jésus pour nous aider. Dans l'introduction d'un de ses derniers livres, Tim Keller écrit ceci, « Je me concentre sur la résurrection comme clé pour comprendre l'ensemble de la Bible et pour faire face à tous les défis de la vie. » Et parmi les défis de la vie, il y a la souffrance que nous ne demandons pas, mais qui est là et qui vient. Et pour Job, l'espérance de la résurrection a été la grande source de réconfort dans sa souffrance. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour la résurrection, pour le fait que Jésus-Christ, par sa mort, a été notre avocat et nous a assuré le pardon de nos péchés. Et nous a donné l'assurance qu'un jour, nous nous tiendrons devant toi. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous assures que tu es toujours avec nous et que tu ne nous abandonneras jamais, que tu es vraiment près de nous quand tout est noir. Et nous te prions que, tout comme pour Job, l'espérance de la résurrection soit notre source de réconfort quand nous sommes dans les ténèbres. Au nom de Jésus, amen.